plus dans tes cartons une bonne chanson pour cet enfant.
Boum.
Une chanson? Pourquoi faire?
Pour la chanter. Boum.
De ces chansons originales qu'on a déjà l'impression d'avoir entendu quelque part et qu'on retient tout de suite parce qu'on s'en souvient aussitôt.
Boum.
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 Boum. Boum.
Boum.
Chanson Boom, le magazine de la chanson de France Culture.
Boom, boom, boom.
Un divertissement proposé par Hélène Azéra.
Boom.
Boom, boom.
Bonsoir chères auditrices, bonsoir chers auditeurs, amis de la chanson, bonsoir. Ici à Chanson Boom, nous nous sommes souvent préoccupés de ce genre chansonnier, la mise en chanson de la poésie, qu'on retrouve tout au long de l'histoire de la chanson francophone. Yvette Hiché, pour son 5e album, a voulu rendre hommage à un singulier poète du XXe siècle, Jo Bousquet. Un disque sobre, délicat, tout à restituer l'aventure humaine de ce grand poète. Elle est là, le micro à côté. Bonsoir.
Bonsoir.
Yvette Hiché.
Bonsoir.
Merci d'être là pour nous parler de ce poète, de ses chansons et un petit peu de vous-même quand
bien
même.
Bien sûr, bien sûr.
Parce que c'est une petite aventure.
C'est une aventure, une grande aventure même.
Moi, en tout cas, Iné Bombec de Paris, c'est très joli dans le poème de Villon, mais je n'y crois pas.
Vous avez raison.
Voilà, il y a quand même quelques villes comme Sète ou Toulouse qui se sont illustrées dans le genre. Racontez un peu en bref avant qu'on écoute votre rencontre avec Jo Bousquet.
Comment j'ai rencontré Jo Bousquet? Ben écoutez, je suis de Carcassonne, je suis originaire de Carcassonne. Ouais. Lui est originaire de Narbonne, mais il a vécu à Carcassonne pratiquement toute sa vie. Et il se trouve que sa maison familiale, qui a été vendue en 1999, du moins achetée par le conseil départemental, a été réhabilitée. Uh-huh. Et là, c'est créé le centre Jo Bousquet. Jo Bousquet et son temps pour rendre hommage au poète. Donc, on peut y visiter, enfin, y voir, parce qu'on n'y rentre pas, sa chambre.
Oui.
Et autour de sa chambre, une exposition permanente.
C'est très ennuyeux, je ne veux pas réduire Jo Bousquet à son aventure d'infirme, puisqu'il a été blessé pendant la guerre de 14-18 et il est resté paralysé toute sa vie. Avec cette chose extraordinaire où les plus grands esprits de France et peut-être même d'ailleurs, Max Ernst venait le visiter.
Venait lui rendre visite.
Et sa poésie était célèbre. Mais c'est indissociable.
Je crois que c'est totalement indissociable.
Comme la cécité d'Homère.
Voilà. C'est en fait cette blessure qui lui a permis de renaître une deuxième fois.
Il était poète avant quand même.
Un petit peu. C'était plutôt un adolescent déluré avant. Bon, moi, je pense qu'il est plutôt... On parle plutôt d'une deuxième naissance après sa blessure.
Cet homme immobilisé a un amour des femmes. Et on va commencer par une chanson qui s'appelle « Passante ». Comment vous l'avez choisie?
Mais j'ai choisi Passante et un peu les autres poèmes parce qu'ils avaient déjà très pragmatiquement une longueur suffisante pour être mis en musique et pour être chantés. Et puis aussi parce qu'ils représentaient les thèmes favoris de Jo Bousquet, la femme. Parler de Jo Bousquet, c'est parler de son amour pour les femmes et pour toutes les femmes, quelles qu'elles soient.
On écoute Passante, vous faites aussi la musique?
Alors moi je fais la mélodie,
oui.
Et puis c'est mon pianiste Gilles Bessette qui fait les arrangements.
On vous écoute Yvette Hiché chanter Passante.
Elle a promené dans les villes le pas qui tremblait sur les eaux. Une chanson la déshabille, son silence est né d'un oiseau. Elle illumine la lumière comme l'étoile du matin. Quand tout le ciel est sa paupière, embellit et le jour qui l'éteint. Mais l'astre d'où le ciel s'envole, cette île où nos voeux sont allés, quand mon cœur bercé de paroles se meurt de la chanson qu'il est. Quel mal trouvait-elle à me plaire, qu'un aveu me l'ôte sitôt, mouillant ses regards de sorcière des pleurs qu'il a prises au ruisseau. Hélas, ne pleurez point, madame, si j'ai mes jolis soins perdus près d'un enfant aux yeux de femme qui joue à l'amant qu'il n'est plus. Hélas, ne pleurez point, madame, si j'ai mes jolis soins perdus près d'un enfant aux yeux de femme qui joue à l'amant qu'il n'est plus.
Dans cette première chanson, on a affaire à un texte avec des rimes et les formes fixes, les pieds, etc. Ce n'est pas le cas de tous les textes que vous avez mis en musique.
Disons que ici, dans La connaissance du soir, c'est le cas, parce que c'est le seul recueil qui est écrit par Bousquet en rimes. C'est-à-dire, c'est Jean Poyan.
Vous avez donné dans la facilité.
Tout à fait. Et vous savez pourquoi ? Parce que lors d'une rencontre au centre Jou Bousquet, oui, je suis allée écouter des lectures d'un poète qui s'appelle Gaston Puel, qui est arnais, il nous a quittés il y a 2 ans. Et j'ai été éblouie par sa poésie, très tellurique. Et le directeur du centre Jou Bousquet me dit, puisque ça te plaît, tu n'as qu'à la mettre en musique. Alors je me suis plongée dans Puel, qui n'a aucune rime, qui n'a aucune structure, aucune métrique dans sa poésie. Et j'avoue que je me suis sentie un peu faiblarde. Alors je me suis dit, avant de me lancer dans Gaston Puel, je vais peut-être tenter un poète qui a des rimes. Et bien sûr, Jou Bousquet était sous la main, donc j'ai pris la connaissance du soir et je fais ça. Oui, parce que c'était la facilité au départ, c'est vrai.
Le musicien qu'il faut aller voir quand on est devant des poèmes sans rimes et sans rythme, c'est Cosma, puisque la plupart des poèmes de Prévert qu'il a mis en musique étaient des vers libres et des choses comme ça. Et il fait ça tellement bien qu'on s'en aperçoit même plus après que le poème n'a pas...
C'est vrai, mais bon, je ne suis pas vraiment musicienne. Je fais les mélodies de mes chansons. Je peux mettre quelques accords de base, mais vraiment basiques. Et c'est mon pianiste qui habille, qui fait tout le reste, qui met les habits.
Bah, c'est important de trouver la mélodie quand même.
Et donc,
vous faites comment? Vous mettez au piano? Vous jouez un peu du piano?
Je le fais dans ma tête. J'ai un piano aussi, donc je pianote, je vais dire. Les poèmes de Puel sont prêts déjà aussi, parce que je les ai faits en même temps, finalement.
L'un était le marchepied.
Oui, un peu, oui. Puis ils se connaissaient tous les deux aussi, donc j'étais un peu dans une ambiance.
Mais vous connaissez Bousquet depuis longtemps, en tant que...
Ben, je connais son existence depuis très longtemps, mais je m'y suis vraiment penchée dessus il y a 6 ans, on va dire, 5-6 ans.
Oui.
Voilà, je n'ai pas fini encore de lire, parce qu'on trouve difficilement ces recueils, ces revues, ces nouvelles, ces livres, en fait.
Il n'y a même pas d'œuvres complètes.
Si, il y a les œuvres complètes. Alors, il y a les romans qui sont sortis chez Albin Michel.
Oui.
Chez Gallimard. Il y a beaucoup d'œuvres dans la collection L'Imaginaire, donc la connaissance du soir fait partie de ça. Et puis chez un éditeur qui s'appelle Rougerie.
Il n'est pas en poésie, Gallimard ?
Si, il est en poésie, Gallimard.
Quand même, qu'il a un petit peu ce que tous les poètes français rêvent.
Voilà, et c'est Jean Poyan qui était à la tête des éditions Gallimard à cette époque-là, qui connaissait bien Bousquet, qui lui a dit « Tu devrais tenter la rime, parce que la rime tire vers l'avant ». Et Bousquet s'est laissé conseiller et enseigné par Jean Poyan. Et
là, Poyan a été de bons conseils.
Et Bousquet s'est dit, c'est vrai finalement, parce que quand on rime, la pensée, on rentre dans un état hypnotique. La pensée rentre dans un état hypnotique. Ça lui a plu.
Voilà. Non, puis surtout, la musique, elle est quand même plus facile et plus évidente quand on est dans le rythme.
Dans le poème construit, quoi.
Oui, Chantelaine, voilà. Vous voyez, j'avais lu Châtelaine, c'est vous qui m'avez corrigé. Pour vous, c'est quoi ce...
Pour moi, Bousquet, ça reste le mystère, pour moi aussi. Et Châtelaine, c'est une petite histoire très marrante. Par exemple, il appelle le chien lundi. Oui. Menant son chien lundi... Mardi, il est allé amener son chien, lundi, etc. Il y a des images qui sont totalement farfelues, mais qui nous amènent un peu de gaieté. Enfin, au début. Après, ça finit toujours quand même dans la tristesse. Tu as trouvé mon cœur trop lourd, il lui dit. Bon, mais c'est assez farfelu comme poème, Châtelaine.
Dansant sur l'herbe tendre, j'ai trouvé mon ami, menant son chien lundi, qu'ailleurs il allait vendre, et reviendrait m'attendre avant la fin des jours. J'ai pris ses chrysanthèmes, et je les couds moi-même sur la robe qu'il aime, pour ressembler au jour. Va, jour et jour, fond d'eux, souris au plus heureux qui te fait si jolie, avant qu'il ne t'oublie pour fleurir dans tes yeux. Pleurant à ma fenêtre, à l'aube d'un mardi, j'ai voulu pour mari l'amour qui fut mon être, mais ne sais le connaître avec mes yeux déserts. Dans son char d'hirondelle, quand il cherche avec elle le cœur le plus fidèle pour y pleurer la mer. Jour et jour on fait deux, mais tu vivras pour eux, ton ombre les maris, de peur qu'ils ne te fuient en te volant les yeux. À la messe des cendres, où revient mon ami, j'ai porté mercredi mon cœur pour le lui rendre, comme il n'a pu le prendre, l'ayant trouvé trop lourd. Chez moi je le rapporte, entre des doigts de morte, et verse sur ma porte son poids tremblant de jour. Va, jour et jour, fond d'eux, souris aux plus heureux qui pleurent aussi de naître pour un bonheur si vieux qu'il trembla d'apparaître, et meurt de ce qu'il veut.
Oui, j'aime vraiment beaucoup votre façon de détailler Bousquet. Une préoccupation que j'ai toujours, c'est que en chanson, l'humilité, la non-prétention, c'est souvent une qualité. Il y a des chanteuses prétentieuses, il y en a qui ont du talent. Je crois que Edith Piaf avait une certaine idée d'elle-même. Mais quand on entend celle qui était un peu sa rivale, Lucienne de Lille, elle chante, voilà, elle met son cœur sur la table, et puis c'est tout. Et Et vous, alors, vous êtes une chanteuse intelligente, avec un, je veux dire, un vernis littéraire, mais je crois qu'il y a quand même un peu plus qu'un vernis. Et vous chantez ça avec simplicité. Vous essayez pas de faire des grands effets.
Mais non, parce que ça serait peut-être le risque de le détruire,
De mettre du pathos.
De mettre du pathos alors que.
Alors qu'il y a une vraie douleur.
Oui, c'est exactement ça. Il y a une vraie douleur et puis il y a de vraies images, de vraies visions qu'il faut. J'allais dire, il faut le mâcher, le texte. Il faut l'offrir pour que les gens aient le temps aussi de voir ce qui se passe, d'entendre des images qui paraissent mystérieuses, difficiles parfois.
J'ai lu dans votre biographie que vous êtes passé par le professorat. Eh bien, je trouve qu'il y a un petit élément de professorat qui n'est pas du tout gênant, qui veut juste dire que vous trouvez que ce que vous chantez, c'est important et qu'il faut que les gens l'entendent, l'écoutent.
Il faut le faire passer. En fait, c'est ça. Je ne suis qu'une passeuse, finalement. Mm-hmm. C'est tout. Je reste à cette humble position.
Vous avez un joli timbre deux fois, quand même. Vous en servez de façon très agréable.
Et alors, quelquefois, quand je chante, que je suis sur scène, je la sors davantage, ma voix. Je la force un peu, vous voyez, oui. Etc. Et là, je me suis dit, surtout, attention, reste à un niveau très intimiste, très calme, très...
Vous tournez avec ces chansons?
Alors, j'espère tourner. J'ai commencé à...
J'espère que la région va un peu vous aider quand même.
Alors déjà, la région m'a aidé. Enfin, le département m'a aidé. L'agglo de Carcassonne. Oui. L'agglomération m'a aidé pour l'enregistrement de l'album. Et nous avons des projets avec Monsieur Pignès, René Pignès, le directeur du Centre Jules Bousquet, pour le tourner. J'ai fait un récital. Un récital avec ses chansons, autour duquel je lis quelques extraits de Jules Bousquet, qui trace son portrait en filigrane, en fait. Et je l'ai déjà interprété dans une ville proche de Carcassonne. Et mon but, c'est de le faire tourner pour le faire connaître au plus de monde possible. Parce que
quitte à chanter dans les écoles.
C'est exactement ce qu'on compte faire. C'est-à-dire que Monsieur Pignès viendrait pour parler un peu du Centre Jules Bousquet et de Jules Bousquet, bien sûr. Et moi, je ferai quelques
interprétations. Je trouve ça très joli quand une ville rend hommage à un enfant du pays. Je sais pas pourquoi, j'ai toujours dans l'idée que pour les gens, être salués et honorés dans leur ville natale, même si c'est après leur disparition, c'est une sorte de plaisir.
Ouais, mais vous savez, le travail qui est fait à ce niveau-là est absolument remarquable. Il y a beaucoup d'autres poètes qui viennent, des peintres, puisque Bousquet a baigné dans le monde de la peinture aussi. Sa chambre était remplie de tableaux.
Et ils sont allés où ?
Ben, ils sont toujours là, je pense. Ils sont...
Ah d'accord.
Sinon, je ne sais pas. Je demanderai. J'ai pas pensé à le demander. Il y avait des Max Ernst, il y avait des Magritte, et puis ça tournait parce que chaque fois, ces peintres venaient les lui offrir. Il y a beaucoup de travail qui est fait autour de Jules Bousquet. Il y a de plus en plus de monde qui vient. Alors parfois, on dit bon, c'est trop élitiste. Bousquet, c'est hermétique. Mais non, si on s'y laisse glisser dans sa poésie. Ben, au début, on percevra quelques images, un peu de mystère. Et puis, plus on s'enfonce dans cette poésie, et plus on se nourrit, et mieux on se sent.
Puis la culture sans élitisme, pas que de l'élitisme, mais un petit peu, beaucoup, même de temps en temps, tirer vers le haut, c'est, c'est agréable. Oui, en même temps, c'est difficile de faire un récital qui ne... Sois pas triste, c'est...
Oui, mais...
C'est le...
Dans mon département, j'ai l'avantage d'être un peu connue. Et donc, si vous voulez, il y a des gens qui n'ont jamais abordé cette poésie, qui sont venus écouter le récital et qui ont été enthousiastes. Et je trouve que c'est bien d'arriver à faire en sorte que ces personnes qui n'ont rien à voir avec la poésie puissent l'entendre et puissent tout d'un coup s'y intéresser. Donc l'élitisme, c'est bien, mais c'est bien aussi de passer à d'autres...
Cloche, d'autres personnes. C'est quoi comme histoire ?
Vous me demandez, vous savez, des questions très difficiles, parce que expliquer les poèmes de Jo Bousquet, je crois que ça n'est pas facile.
Oui, mais
je laisse le soin de le faire aux universitaires.
En les chantant, vous racontez des histoires.
Ah ben, en les chantant, déjà j'ai les mots, la musique des mots. Oui. Elle-même. Et puis, toutes ces cloches qui sonnent, ça peut être les cloches, c'est le moment qui sonne, c'est-à-dire l'heure est venue de quitter le monde de l'enfance, par exemple, de grandir. L'heure est venue de se prendre une balle dans la colonne vertébrale, par exemple. C'est un moment. Donc, la cloche, pour moi, elle marque un moment et elle marque le destin. Les cloches marquent plusieurs moments de la vie, plusieurs moments du destin. Je les ai pas.
Oui, ce que Gilles-Jean Villard, le grand auteur suisse, a mis dans les fameuses trois cloches, où pareil, les cloches marquent le mariage, le baptême,
voilà, tout ça. Ouais,
et la suite. Ouais. On vous écoute donc, Yvette Hichet, accompagnée par
Gilles Bessette.
Dans un poème de Jo Bousquet que vous avez mis en musique et que vous chantez.
J'ai quitté mon nid de pierre sur un bel oiseau d'airain. Vos douleurs me sont légères, je suis la mort des marins. J'apprends la tendresse aux hommes que j'étreins sans les briser. Je suis l'amour d'un fantôme qui se souvient d'un baiser. L'hiver conduit mon cortège et pour singer ses façons, j'ai mis ma robe de neige. Je suis la mort des chansons. Les cœurs d'amants pour nous suivre autant leur manteau de roi prennent des robes de givre. Les morts habitent le froid dans un haut grenier de pierre où la lune nous attend. Au galant que je préfère, je souris avec les dents. Les baisers que je lui donne sont muets comme les lys dont la pâleur l'emprisonne au fond des jours abolis. Cloche d'or, cloche de terre, sonnez en vain dans le sang. J'ai des ciseaux de lumière, je suis l'oubli des absents. J'ai semé sur votre face les iris, couleur de temps. Qu'avec mes ciseaux de glace, mes mains coupent dans le vent. La fleur sans ombre des larmes a fait s'ouvrir dans les cieux au jour qui jette ses armes. Un ciel plus froid que vos yeux. Ainsi j'efface une voile et rends au vent sa pâleur qui pleure avec les étoiles dont elle effeuille le cœur.
Alors évidemment, je suis allée chercher aux archives, chez nos amis de l'INA. Et là, je n'ai pas trouvé la voix de Jo Bousquet. Il était quand même immensément connu dans l'intelligentsia.
Oui, oui, c'est vrai.
Personne n'a eu l'idée de l'enregistrer. Par contre, très vite, il y a des hommages à la radio. Et puis, c'est pas n'importe qui. Et avec des choses étranges, justement, on a Max Ernst qui parle et Rob Grillet. C'est très, très curieux de voir des gens très, très divers qui vont s'intéresser à lui. Et puis, il y a évidemment des grands acteurs qui disent ces textes. Alors, je vous propose un poème pour vous donner un peu une idée des lectures. Alors, c'est dans une émission d'Hubert Juin de 1953 qui s'appelle « Jo Bousquet, témoignage de la condition poétique ». Et au début de l'émission, il y a un poème récité par Roger Blin, excusez-moi du peu, qui s'appelle « Il n'y a pas de nom ».
Il n'y a pas de nom qui convienne tout à fait au mal du soir, comme s'il était interdit à la pensée d'en être la confidence. Celui qui y est sujet ne saurait en relever une image. Il ne faudra même pas que j'essaie de me le représenter quand j'aurai cessé de le ressentir. Je me souviendrai que ma vallée s'est enfoncée dans un affaissement du sol où se formaient des brumes malsaines, les rêves que j'avais faits dans la nuit précédente et que tout le jour j'avais oubliés. On dirait une remontée du sol, isolant la terre où il était enfoui, une humeur de lumière qui épaissit la brume au lieu de l'alléger et pèse sur mes yeux, les immobilise, comme pour ramener sur moi le sommeil de la nuit passée. Comment lutterai-je contre le mal du soir? Il ne ressemble à rien et je ne le vois pas venir, mais tout ce que je reconnais en aggrave la peine et me la rend à la fois plus irrésistible et plus obscure. Ma tristesse ressemble à ces humeurs calavéreuses qui désolent la terre où elles sont enfouies. Ne me vient-elle pas des rêves sinistres qui ont gâté mon dernier sommeil? Est-ce le regret d'Alice que j'avais connue fillette et à qui je ne pense presque jamais? Dans le moment où elle me fait le plus de mal, il me semble qu'elle n'a pas de sens et que la terre la recouvre. Cette douleur ne passera pas si je ne trouve aucun moyen de la retenir. C'est un chagrin qui ne veut pas être et qui jamais ne dormira. Je ne sais même pas comment cette tristesse a commencé. Était-elle restée sur moi après les rêves sinistres qui ont agité mon dernier sommeil? L'amie de ma jeunesse est morte, mais je me retrouvais après 20 ans dans la chambre où nous nous étions aimés et où je l'avais attendue tant de fois. Mon amie n'y était-elle jamais entrée vivante? J'étais désespéré comme un revenant qui n'arrache à l'oubli que le décor de son amour. Cependant, je souffrais et ma douleur était plus grande que moi. C'est alors que j'ai compris pourquoi j'avais ouvert un peu par hasard ce cahier. Je voyais mon ami avec les yeux de l'esprit. Cette vision n'est pas faite pour me mettre au monde, ni pour accomplir mon bonheur. It goes like this. Ce n'est plus que dans mes écrits qu'elle peut être avec moi. Dites donc, si l'amour était un complexe. Mais au ras de cette terre désolée, ce rayonnement, est-ce enfin l'orgueil comme un soleil? J'avais tant douté. Je sais aujourd'hui que je suis un de ces hommes inutiles qui sont nés pour souffrir, qui, les mains dans les poches, regardent la mer en sifflotant « It goes like this », parce que la mer, ce n'est rien du tout. Les hommes qui sourient quand on prononce le mot « désespoir » et qui font vite, sur la pointe des pieds, quelques pas pour se sentir de nouveau seuls. Ils s'entre-regardent quand ils se rencontrent. On imprime parfois ce qu'ils ont écrit. En général, ils sont déjà loin, ou morts, s'ils ont de la chance. Il ne faut pas dire qu'ils ont du talent. Leur pensée n'avait tant de violence que pour les frapper, eux, les premiers. Ma peine est un appel, le long appel du sang qui voudrait m'éveiller dans l'univers qui ne connaît que mon amour. Mon enfance dansait dans tes propos de folle. À chaque instant, ma vie est là, comme une sorcière consultant son miroir dans mes yeux. Toi qui n'es pas une chose, toi qui es belle comme la calmie, toi qui te retiens à grand-peine de poser un doigt sur tes lèvres, amour qui parle en ma pensée.
Roger Blin dit Jo Bousquet, vous êtes sur France Culture dans Chanson Boom. Ce qui est extraordinaire, c'est, on en parle un peu, cette façon dans cette poésie, sans arrêt, de passer du journal le plus intime à une chose mystérieuse, pleine d'images. Et lui, il fait ça très 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 bien.
Ah ben, parfaitement bien, oui. Lui, il est, on dirait, il est sans arrêt replié sur lui-même, sur sa douleur, sur sa peine, sur son désespoir. Et sans arrêt, il part dans des visions, des rêves qui partent dans l'univers, quoi.
en chanson quand même assez facilement. Les chansons les plus sépulcrales prennent tout de suite un ton plus léger. Ça vous fait pas peur de temps en temps justement de sortir du cimetière pour aller dans la forêt, pour aller ailleurs?
Ça fait partie de la vie, hein, tout ça. Que ce soit le cimetière ou la forêt, c'est notre sort, c'est l'ombre, la lumière. En l'occurrence, le cimetière et la forêt, c'est l'ombre qui avait une importance capitale chez Bousquet.
On sent que de temps en temps, il n'est pas loin non plus de la fable. Mais voilà, c'est des fables qui deviennent des énigmes et des choses comme ça. Et j'en ai pris une, ce sont les deux fossoyeurs.
C'est quand même toujours autour du mystère et autour de la mort, quoi. Je pense à un vers qui est magnifique dans Les Deux Fossoyeurs, quand il parle de la mort. « Je suis l'époux d'une reine qui m'a fait roi sans me voir. » Je trouve ce vers magnifique.
Donc, Les Deux Fossoyeurs, chanté par Yvette Hiché.
Mon nom n'est pas sur ma porte, mais chacun sait mon métier. Je prends du sable aux mers mortes et des clous à vos souliers. Prête-moi tes gants de laine pour ferrer mon cheval noir. Je suis l'époux d'une reine qui m'a fait roi sans me voir. Dans un chantier sous la terre, j'ai mes outils d'emballeur et vends à l'homme des pierres qu'il me paye avec des fleurs. Dis-moi tes noms que je donne la nuit aux ombres qu'ils sont et que Dieu leur taille un trône dans le poids de ta maison. Mon parrain passait du sable, quel est-il ? On l'appelait. Il a justesse et semblable à de grands trous qu'il taillait. Et les voyant dans leurs cendres entrer sur les pas d'autrui, il leur donnait à comprendre ce que je chante aujourd'hui. J'écris mon nom sur ta bière où repose on ne sait qui. Un homme n'est que son frère, puisque son frère, c'est lui.
Vous allez un peu me parler de vous, Yvette Hiché.
Oui.
Alors vous êtes...
Alors je suis originaire d'un petit village à côté de Carcassonne, Conques-sur-Orbiel. J'ai toujours voulu chanter parce que j'ai toujours adoré la chanson. Mmh. Et puis, comme on me disait quand j'étais petite, c'est pas un métier, donc il faudra d'abord que tu aies un métier.
Oui,
ok, donc voilà, passe ton bac, on verra après. Donc j'ai passé mon bac, j'ai passé ma maîtrise d'anglais, puis j'ai été prof d'anglais toute ma vie. Mais comme cette passion ne m'a pas lâchée, j'ai quand même tout fait pour chanter. Tout de suite, j'ai trouvé des musiciens pour faire des reprises de chansons de Brassens, Ferrat, Ferré, Barbara. Bon. Mm-hmm.
Très original.
Très original. Et puis un jour, j'ai eu l'occasion d'être au café avec Marcel Azola, qui connaissait le pianiste qui m'accompagnait à l'époque. Il me dit, mais pourquoi vous n'écrivez pas des chansons? Ben, j'ai dit, écoutez, oui, pourquoi pas. Et en arrivant chez moi, j'ai commencé à écrire. Donc, puis c'est parti, j'ai creusé. Et puis
j'ai une très grande admiration pour Marcel.
Ah ben, faut dire que...
Et son éclectisme, puisque... Il est partout dans la musique, jusqu'à la musique contemporaine.
Ouais, et à partir de là, mon groupe s'est dissous et j'ai rencontré Gilles Bessette, qui est devenu le pianiste qui m'accompagne depuis donc plus de 20 ans, qui harmonise toutes mes chansons. Et...
Vous continuez votre travail de,
professeur ? Je peux dire que j'avais deux métiers. Bon, comme la passion, on compte pas, donc je travaillais.
C'est extrêmement courant chez les chanteurs et les musiciens. Puis la crise aux États-Unis, tous les grands du jazz étaient cordonniers, faisaient d'autres métiers. Ouais. Oui.
Voilà, donc j'ai mené ces deux métiers à côté. J'ai pas mal tourné, j'ai fait 4 albums et voilà. Et puis là je me penche plus vers la poésie en ce moment. Voilà.
Cette idée de porte-flambeau.
Ça m'intéresse. Bon, puis c'est tellement mieux écrit que ce que je fais. Oh, mais disons que ça me passionne parce que ça m'amène dans un autre monde, voilà. Mm-hmm. Et dans un monde de mystère, de force, un monde puissant qui me fascine.
C'est une sorte de collaboration. J'imagine qu'il est très, très présent quand on le travaille, quand on le chante.
Je ne pensais pas que quelqu'un pouvait me le dire ça un jour, mais c'est très vrai. J'ai eu l'impression de rentrer dans son intimité et de le connaître et de travailler avec lui. Mmh. Par exemple, j'ai été très empathique de le savoir paralysé dans sa chambre. Mmh. Quand il dit, par exemple, ce n'est pas nous qui regardons les objets, le regard est très important pour lui, ce sont les objets qui nous regardent. Mmh. Je m'imaginais paralysée dans un lit et je me disais, mais bien sûr, tout ce qui est autour de nous, tout l'environnement, doit être tellement présent qu'ils finissent par avoir ce regard sur nous, comme dirait Barbara quand elle dit « les choses nous parlent si nous savons entendre ». Et pour Bousquet, ça m'a paru encore plus flagrant. Et moi, ouais, c'est vrai, j'ai été très proche de lui.
J'ai mis en sixième position « Danse Muse », qui est la première chanson sur votre album, qui est peut-être la plus remuante des chansons
hommage aux femmes, encore une fois. Donc ça c'est le côté lumineux de Bousquet.
Yvette Hichet chante Jo Bousquet, qu'elle a mise en musique, Danse Muse.
Il s'en faut d'une parole, qu'elle est l'âme comme avant. Elle court où les jours volent, elle est née avec le vent. Ses lèvres chantent pour elle, tous les oiseaux du couchant brûlent ensemble leurs ailes à ce qui luit dans ses champs. Les heures suivent son ombre, elle les voit dans les fleurs, ne devinant qu'à leur nombre qu'elle était tout dans leur cœur. Elle est grise et se dit folle, et danse à fermer les yeux. Un cœur bat dans ses paroles, nul ne sait où sont ses cieux. Comme un astre dans ses branches, sa candeur étreint les soirs. Dont elle est la rose blanche, il faut l'aimer pour la voir. Une larme la ramène à la lumière des jours où l'homme instruit de ses peines l'enfant qu'elle est pour toujours. Et dans le vent qui chemine, c'est la nuit blanche des pleurs dont la lumière orpheline a vu le jour dans le cœur. Elle est grise et se dit folle, et danse à fermer les yeux. Un cœur bat dans ses paroles, nul ne sait où sont ses cieux.
Votre pianiste, vous l'avez trouvé où?
Je l'ai trouvé à Toulouse.
Oui.
C'est un pianiste toulousain qui a fait beaucoup de jazz, mm-hmm. jazz fusion, mm-hmm. qui a enseigné. Et je cherchais quelqu'un, et un autre musicien, Gilles Arsens, me dit, tu devrais téléphoner à Gilles Bessette. Puis Gilles est arrivé, il me dit, voyons, qu'est-ce que tu fais? Il me dit, j'ai jamais fait de chanson française, mais bon, on y va. Mm-hmm. Et puis, voilà, il a pris mes chansons, sur lesquels j'avais mis des mélodies, mmh. et il les a harmonisées, orchestrées, habillées, d'une façon extraordinaire, qui m'a beaucoup touchée.
Il vous fait des remarques ? des fois. Genre, ça, peut-être tu devrais le chanter comme ci, ça, peut-être tu devrais le chanter comme
écoutez,
ça.
Écoutez, quelquefois, quand, oui, il a dû m'en faire, mais je me souviens pas trop. Il est très respectueux. C'est ça qui est intéressant. Il est très respectueux de ce que j'ai, de ce que je lui ai proposé à harmoniser. Et il trouve, voilà, ce que je ce que j'entends.
Il habille complètement vos mélodies.
Il habille les mélodies et c'est ça correspond toujours à ce que j'entends.
C'est une formidable complicité, là.
Énorme.
La complicité entre une chanteuse et les musiciens qui l'accompagnent.
Avec Gilles, c'est facile. On se connaît depuis tellement longtemps qu'on n'a pratiquement pas besoin de répéter. Mm-hmm. Par exemple, la semaine prochaine, on va jouer ensemble. On va faire quelques petits raccords. Et ça va être fait parce qu'on se connaît tellement et il est tellement
alors,
attentif.
Une chanson de Jo Bousquet, enfin le texte, un poème de Jo Bousquet que vous avez mis en musique, qui parle des déshérités. C'est assez intéressant de voir le sens social arriver dans la petite chambre où il est calfeutré.
Il me semble que le déshérité, en l'occurrence, c'est lui quoi, qui a perdu ses membres inférieurs, même s'il le met, s'il en parle en règle générale, s'il parle des autres déshérités, je crois que c'est de lui qu'il parle.
On voit à peine son visage, les malheureux n'ont l'air de rien. Son père dit qu'il n'a plus d'âge. Sa mère dit, je l'aimais bien. Des jours brisés qu'il se rappelle. Il n'est pas sûr qu'il ait souffert. Tant sa douleur est naturelle. Son sourire est mort l'autre hiver. Il pleut des jours, le jour en pleure. L'avril périt de ses parfums. Et comme lui, les regrets meurent. Sait-on d'un mort s'il fut quelqu'un? Ils iront le voir à l'asile. Il a des frères, il a des sœurs. Jouer au sou dans sa sébile. Nul ne peut rien à son malheur. S'il a vécu comme personne, souvenez-vous par charité qu'un monstre attend qu'on lui pardonne. L'affreux bonheur d'avoir été. S'il a vécu comme personne, souvenez-vous par charité qu'un monstre attend qu'on lui pardonne l'affreux bonheur d'avoir été.
On continue avec Yvette Hiché pour ce beau disque consacré à Jo Bousquet, une figure un peu étrange. C'est drôle, en France, il y a quand même pas mal de poètes qui sont des poètes où les gens aiment bien dire oubliés, négligés, etc. Et puis dès qu'on commence un peu à travailler dessus, on s'aperçoit qu'ils ont des vrais amoureux, des vrais disciples.
J'ai entendu une phrase de Maurice Nadeau sur un document de l'INA, je crois, qui dit « Jo Bousquet, poète méconnu et consacré ». J'ai trouvé que ça lui correspondait très bien, parce qu'il a quand même fait partie du mouvement surréaliste. Il est connu de beaucoup de monde, et méconnu du grand public aussi, bien sûr.
Oui, la phrase que j'aime beaucoup, c'est la phrase de Baudelaire sur Marceline Desbordes-Valmore, où il dit « Oubliez mais par qui, par ceux qui n'ayant jamais rien senti, ne peuvent se souvenir de rien. »
Il est plus méchant que moi.
Vous avez pu vérifier qu'il a des amoureux, toujours.
Oui, oui. Un jour, je parlais avec une dame d'un certain âge, et je vais sortir un album sur des poèmes de Jo Bousquet. Ah, elle me dit, Jo Bousquet, ma grand-mère m'en parlait. Je dis, c'est pas vrai. Ben oui, oui, elle s'intéressait à la poésie, elle connaissait Jo Bousquet. Et il y a des gens qui...
À l'époque, il a eu une vraie réputation, quand même, une vraie reconnaissance.
Oui, mais... à Carcassonne, par exemple. Et pourtant, il est de Carcassonne. Si vous, ouais, voilà. Si vous faites une enquête, ben, beaucoup de gens vous diront qu'on le connaît de nom, mais on ne connaît pas son œuvre, on ne connaît pas ça. Mais c'est connu dans un certain milieu, quand même, je pense.
Enfin, à Carcassonne, l'élite.
L'élite.
Sait très bien qui il est.
Oui, bien sûr.
Et que sa réputation déborde largement la région.
Ah oui, 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 absolument. Ouais.
Ouais. Et on se dit, qu'est-ce qu'il écoutait comme chanson? Est-ce qu'il avait un gramophone? Est-ce qu'il écoutait
Il écoutait la chansons? TSF, hein, je oui. sais. Il adorait Chopin. Et comme chanson, je n'ai pas la moindre idée.
Les surréalistes adoraient les chansons bêtes.
Donc il a dû en écouter.
Voilà, genre Dranem, tout Petroni, tu sens la menthe, tu sens la...
Je ne sais pas du tout ce qu'il pouvait écouter comme chanson. Bon, je sais qu'il adorait Chopin, il adorait la musique classique, mais...
Il devait écouter les concerts.
Oui, oui. Je le sais parce que dans une des lettres qu'il a écrites à Poisson d'Or, une de ses muses, une femme dont il a été très amoureux, il lui dit que... Le soir, il avait souvent des crises de douleur. Et lors d'une crise particulièrement douloureuse, il a allumé la TSF et il a entendu Marguerite Long qui jouait Chopin. Et ça l'a complètement retourné. Et du coup, ça lui a permis d'aller mieux après.
Child Wife, c'est quoi l'histoire?
L'histoire de Child Wife, c'est... Il a eu une relation avec une jeune fille au départ qui s'appelait Ginette. Et c'est assez fascinant. De temps en temps, l'été, il allait dans un petit village qui s'appelle Villalier, à côté de Carcassonne. Et cette demoiselle lui a rendu visite avec les parents, parce que ça se faisait. Et ils ont eu, enfin, lui en particulier au début, a eu un coup de foudre terrible pour cette jeune fille de 15 ans qui habitait à 7 km de là et qui plusieurs fois... quitter le domicile de ses parents, qui étaient des bourgeois, traverser la nature en pleine nuit, sur 7 kilomètres, vous vous rendez compte avec les dangers que ça pouvait présenter, pour aller retrouver Jo à Villalier. Là, elle passait la nuit avec lui, nuit de poésie, nuit de découverte de l'érotisme aussi, nuit fascinante. Et Ginette est restée sa... La femme qu'il a, je crois, le plus aimé, parce qu'elle, il disait qu'elle lui ressemblait, il disait qu'elle était son double. Qu'elle a des yeux très bleus, des yeux tellement bleus que s'ils étaient un peu moins bleus, ils seraient noirs. Et il lui parle de sa beauté. Et il lui a dit, voilà, et j'ai écrit Child Wife pour toi, en pensant à toi. Parce que Ginette, c'était la femme enfant. Et vous allez voir, dans Child Wife, il parle de l'enfance, hein, des jouets, des yeux de faïence. Ginette avait de très beaux yeux. Et c'est pour elle qu'il l'a écrite.
Aux yeux de faïence, des jolis joujoux, naît l'amour d'enfance qui finit sans nous. Dans les yeux de brume, des fantômes noirs, tout ce que nous fûmes est mort sans nous voir. Mais l'azur qui sombre sous le poids d'un lys abandonne aux ombres d'effacer l'oubli. et ses pleurs fiancent le ciel qu'il n'est plus. Aux yeux en enfance, des jours jamais vus. Que ma peine est lente à suivre sans moi les joujoux qui chantent mon cœur d'autrefois. L'heure de la rosée qui fut tout l'amour de leur voix brisée dans mes champs d'un jour. Quand les froids emmènent les enfants qu'ils sont, ils ont de la peine à porter leur nom. Si lourde leur âme qu'à la croix des cieux, le flot noir qui rame au cœur de leurs yeux. Quand les jours se lassent, des joujoux salis, leurs yeux noirs s'effacent dans des yeux d'oubli, dans un vol d'abeilles sous les ors muets. Des maisons qui veillent s'en vont les jouer sous le pleur d'une heure payée d'un gros sou. Les enfants qui meurent de nos chants de fous sous le pleur d'une heure payée d'un gros sou. Les enfants qui meurent de nos chants de fous.
Vous tournez donc avec ces chansons.
Avec les chansons.
Mais vous n'avez pas encore traversé la Loire.
Avec mes chansons.
Oui.
Si j'ai traversé la Loire.
Avec vos chansons, mais pas avec Jo.
Avec Jo, pas encore, mais j'espère bien venir le présenter sur Paris. Bon, j'ai écrit à la Maison de la Poésie, mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Là, je vais recommencer la prospection.
Commencer déjà sur les festivals et poésie chansons.
Voilà. Ouais, mais j'ai commencé. J'attends les réponses. Mais j'ai pas mal de médiathèques déjà qui ont répondu. Mm-hmm. Et puis bon, le travail qu'on va faire auprès des écoles aussi, ça va prendre tournure dès la rentrée.
Ça va être étonnant.
Et même avec des collégiennes.
Oui.
Ouais, c'est une aventure, mais qui me paraît
pour
très
vous, c'est
intéressante.
Quel âge? 15 ans.
Les collégiens, c'est
Bousquet.
Bousquet, ouais.
Ça dépend desquels.
Ouais, ben, ouais. 15-16 ans, je pense. Il a été proposé au bac, au bac professionnel l'an dernier. Un petit extrait de la commission.
Une question. Est-ce que Bousquet avait un peu de soleil dans la voix?
Je crois que oui. Ouais, je crois que oui. Je l'ai entendu dire par des gens qui l'avaient connu et puis qui ont connu.
À cette époque, en plus, l'accent était beaucoup plus. Il n'y avait pas eu la radio et la télévision pour l'éradiquer.
Oui.
Vous êtes en train de lire une biographie.
Je lis la biographie. Je l'ai lue. C'est de Guillaume de Fonclar, est sortie en 2014.
Et chez Stock.
Oui, chez Stock. Il s'est rapproché de Jo Bousquet parce qu'il a une maladie neurodégénérative orpheline. Mm-hmm. Et il a rencontré le poète, évidemment.
Oui, il faut quand même dire, on parlerait dû à ça, mais Jo fait partie de ces gens, on va dire le mot handicap, et qui prouve que on peut mener une vie intéressante et importante.
Très intéressante. Et donc, il parle de sa vie, de sa biographie. C'est très intéressant, oui. Et puis il y a beaucoup d'autres livres aussi.
Lettres aussi.
Ah oui, j'ai lu les lettres.
Et c'est impressionnant de voir tout le.
Fascinant parce que c'est lui à l'état nu. Mm-hmm. Mais franchement, là je viens de trouver les lettres à Marthe qu'on ne trouvait plus dans le. Je les ai trouvées, je sais plus où, sur Presse Ministère ou un autre truc. Et je voulais dire aussi qu'il y a un éditeur qui est l'éditeur Rougerie qui est sur Mortemart dans la Haute-Vienne qui publie au moins 13 œuvres de Jo Bousquet qui fait un gros travail. Et,
ouais,
qui a fait un gros travail.
Celui qui dit qu'il est oublié,
non,
c'est simplement qu'il est ignorant.
Oui. Par contre, certaines correspondances, comme les lettres à Ginette, j'ai eu du mal à les trouver. Mais quand on veut,
absolument.
On y arrive. Hein.
Quand femme veut, Dieu le veut.
Oui, c'est tout à fait ça.
Mon frère, l'ombre.
Mon frère, l'ombre, ben voilà, il y avait. Peut-être qu'il y avait le Jo Bousquet d'avant, la blessure.
Oui.
Il y a eu le Jo Bousquet d'après la blessure. Voilà, il vit avec son ombre.
avec ses souliers de pierre qu'il tenait à chaque main. Le portier du cimetière a fait danser le chemin. Avec ses sabots de cendre sur les lèvres d'un amant, le sonneur est venu prendre ce qu'il disait en dormant. L'absence aux souliers de feuilles donne son cœur pour toujours au seul galant qui la veuille, le vent qui change les jours. La vieille aux souliers de paille hisse un fagot sur ses reins et dans une ombre à sa taille porte la lune à la main. La nuit, tous les pas se mêlent, ce qui nous mène est perdu. L'air est bleu de tourterelle, le ciel, le vent se sont tus. L'absence aux souliers de feuilles donne son cœur pour toujours au seul galant qui la veuille, le vent qui change les jours. Et pareil à la colombe qui meurt sans toucher le sol, entre l'absence et la tombe, l'oubli referme son vol. Mais il survit du murmure où tout se berce en mourant, l'amour des choses qui durent au cœur d'un mort qui m'attend.
L'album « Il s'en faut d'une parole » dédié au poème de Jo Bousquet, mis en musique et chanté par Yvette Hiché, est disponible sur le site internet d'Yvette Hiché qui s'appelle
Yvette Hiché, page perso, orange.
Hiché avec un Y.
Oui.
Et on le trouve aussi au centre Jo Bousquet de Carcassonne. Vous avez une petite chose à nous annoncer?
Ben oui, je voudrais vous annoncer qu'il y a des rencontres poésie-musique qui vont se dérouler très bientôt. Alors ça commencera en fin juin, le 24 juin, avec Pedro Soler et Teresa Reboul qui vont chanter de la poésie catalane. Et puis au mois de septembre, j'aurai l'honneur d'intervenir trois fois au Centre Jo Bousquet pour présenter le récital autour de Jo. Et puis il y aura Gérard Zucchetto, qui est un spécialiste des troubadours, qui va chanter les poètes du Sud le week-end d'après.
Et
le
qui a écrit un livre formidable sur la question.
Ouais. Et puis Vicente Pradal, qui va animer le troisième week-end de ces rencontres poésie-musique.
Je vous remercie, Yvette Hiché, et j'en profite pour rappeler que la France n'a toujours pas signé la charte de protection des langues régionales de la Communauté européenne. Vous pouvez écouter, réécouter, télécharger cette émission sur le site internet de France Culture. C'était Chanson Boom, Claire Poinsignon, Julien Calvas, Patrick Molinier, Hélène Azéra. Bonne nuit à l'écoute de France Culture.